J'étais sur le plateau de l'Hier ce dimanche 13 mai, où nous étions près de 1500 personnes pour répondre à l'appel de Walter Bassan, Constant Pesant, Robert Lacroix, des figures de la résistance. J'habite auprès des plateaux des Lières, et quand j'ai appris que Sarkozy était là-haut, qui s'adonnait à des gesticulations médiatiques, j'étais pris d'un très violent accès de colère et d'indignation. Enfin quoi, Sarkozy, celui qui s'est employé, qui s'emploie et qui va s'employer avec ses amis à démanteler tous les acquis issus du programme du Conseil national de la résistance, démanteler les piliers de l'État social que sont la protection sociale, la sécurité sociale, le droit du travail. Enfin quoi, Sarkozy, celui qui a fait voter des lois qui autorisent la police à rafler les enfants dans les écoles, qui empêche des gens de circuler librement, qui veut liquider l'héritage de mai 68. Alors Nicolas Sarkozy, si vous voulez revenir sur le plateau des Lières chaque année, comme vous l'avez annoncé, ben sachez que j'espère que nous serons nombreux pour vous rappeler tout cela.
Oui, bonjour à tous, là c'est Olivier, là, un futur résistant des Lières. Je suis là en Haute-Savoie et les Lières, ça a toujours été un lieu qui m'a apporté beaucoup d'émotions là, en lecture et puis en balade. Donc c'est vrai que futur résistant, parce qu'on espère que chaque année, à la venue de Mister Sarkozy, ben, nous serons là-haut les résistants contre son système là. Et puis aussi pour dire que Jean-Marie, le borgne, là, était venu il y a quelques années en arrière, mais malencontreusement, les résistants avaient été au courant de sa venue et si je ne m'abuse, il n'a pas pu atteindre le plateau. Il s'est fait jeter au village d'avant. Voilà, super. Bon, ben, on vous embrasse tous et puis courage. Hein, résistons, bye bye.
Salut Daniel, c'est Jean-Michel du Rhône. Il est fort probable que tu ne passes pas à l'antenne mon intervention qui se trouve être sous la forme d'une question. Probablement encore moins la réponse. Mais il m'est assez difficile de me taire. Et parler, c'est résister. Ma question est la suivante, Daniel. Si Nicolas Sarkozy ne s'était pas rendu sur le plateau, aurais-tu eu l'idée de ton émission du 23, d'hier? Ou était-ce plutôt l'opportunité de démolir ce qui est en construction? Dernier point. Toi qui parles de récupération, tu nous fais quoi là, Daniel? Allez, salut monsieur Antitou, à bientôt.
Bonjour, c'est Christophe de Haute-Savoie. Je viens d'écouter votre émission sur le plateau des Glières et vraiment, je voudrais vous remercier. Grâce à vous, l'espoir renaît. Vraiment, il reste des gens lucides dans ce pays et encore merci. Au revoir.
Au nom des membres de ma famille fusillés dans la Résistance, j'ai été très choquée par votre émission sur le plateau des Glières. Il me semble que réduire la Résistance aux conquêtes sociales, toutes légitimes que soient ces conquêtes sociales, est une forme de récupération de la Résistance bien plus grave que celle qu'a pu en faire Nicolas Sarkozy. Voilà. Méfiez-vous quand même de ne pas braquer vos auditeurs. Au revoir.
Monsieur Mermet, je suis un ancien combattant. Je trouve parfaitement honteux vos émissions. Vos émissions actuellement sur le plateau des Glières. Quand on est un résistant, on a honte de la France. On a honte d'avoir protégé des gens comme vous qui insultaient le président de la République, quel qu'il soit. C'est une honte pour une radio de faire autant de tapage, d'incorrections, de malpolitesse, d'insultes au drapeau français et à la France. Monsieur Mermet, Dieu vous bannira.
Bonjour Daniel Mermet. Résister, c'est créer une émission comme celle de ce mercredi 23 mai au plateau des Glières. Grand merci pour toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Alice Kletchevski, 77 ans. Sauvée de déportation par une famille de justes et par tous les résistants à l'occupant nazi. Merci encore.
Bonjour Daniel, c'est Suzy de Paris. Je vous trouve très tiédasse vis-à-vis de nos soi-disant dirigeants. Avez-vous été acheté comme toute la bande d'incapables de rédacteurs en chef, Demorand et compagnie? Je suis très déçue de vous et pourtant je vous ai soutenu l'année dernière. Je crois que je ne vais plus écouter votre émission. Au revoir.
Ah oui, 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 il y en a de toutes les couleurs. Donc. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, ici, il y a des réactions passionnées. Hein, toujours pourtant, c'est des faits qui remontent à 60 ans. Enfin, même si, évidemment, ce qui nous fait venir à nouveau aujourd'hui sur ce plateau des Glières, en Haute-Savoie, c'est la fameuse visite de notre devenu président de la République, ce 4 mai dernier, sur ce plateau, on pourrait presque dire clandestinement, au sens où les anciens résistants n'avaient pas été prévenus. D'où cette émotion, d'où cette manifestation, une semaine plus tard, le dimanche 13, où sur ce plateau, au lieu de la résistance, donc, eh bien, ils étaient un certain nombre à se réunir, 1 500, on ne sait pas exactement, à faire un grand pique-nique résistant et protestataire autour de trois anciens combattants, anciens résistants, on pourrait presque dire rescapés de cet épisode à la fois glorieux et tragique. Et on a évoqué hier leurs réserves, pourquoi ils ont protesté contre ce qu'ils considèrent comme une récupération de la mémoire, une récupération de l'histoire, même s'ils n'interdisent évidemment pas, qui le pourrait, l'accès à ce site. Alors, qui le pourrait, ils l'ont pu d'ailleurs, c'est pas tout à fait exact ce que je dis, puisque un auditeur le disait à l'instant, en 1997, un certain Jean-Marie Le Pen avait essayé d'accéder à ce site, et il en avait été empêché par ses résistants et une certaine partie des habitants, ce qui n'a évidemment pas été le cas lorsque Nicolas Sarkozy est venu accompagné d'une quantité industrielle de journalistes qui, on l'a raconté hier, ont été parqués savamment afin que le candidat à l'époque donne l'impression d'arriver seul, pensif, dans ce fabuleux paysage où il s'est passé bien ce qu'on va nous dire aujourd'hui, parce que hier on a beaucoup évoqué évidemment cette récupération, ce qui pour ces anciens est en tout cas une récupération, mais que s'est-il passé à l'époque? Alors, eh bien, aujourd'hui, mémoire, histoire, ils vont nous raconter ce que furent ces pages de mars 1944. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Daniel Mermet, ici Élie de Fontainebleau. C'est à propos des prochaines législatives. Savez-vous que l'arrière-petit-neveu de l'empereur Napoléon Ier, M. Charles Napoléon, est candidat dans notre circonscription de Fontainebleau-Nemours en Seine-et-Marne? C'est un aimable géant de plus de 2 mètres, élégant, aimable, compétent, docteur en droit. Et nous espérons vivement qu'il déboulonnera enfin l'inénérable député Didier Julia qui sévissait dans notre circonscription depuis plus de 40 ans. Merci.
Oui, bonjour. À propos de votre émission sur les Glières de cet après-midi, et à une époque où on fait de la commémoration un peu arbitraire, plus le fait qu'en ce moment on chasse beaucoup les anarchistes dans la presse et au ministère de l'Intérieur, il est bon de rappeler que parmi ces combattants des Glières, il y avait quand même un gros contingent d'Espagnols qui étaient pour beaucoup des anarchistes ou des cénétistes, donc de la CNT, qui ont combattu. Et preuve en est, il n'y a qu'à lire les mémoires de Bijard, comment il raconte qu'il s'est fait arrêter par une brigade d'anarchistes espagnols pour vérification. Voilà. Eh bien, continuez votre travail et continuons aussi notre travail de mémoire. La mémoire ne s'efface pas et elle n'est pas soluble dans l'eau ni dans le gouvernement Sarkozy. A plus. Au revoir.
Alors, je mets mes lunettes et je cite. Qui s'accapare l'histoire pour une cause personnelle, même si celle-ci est juste, ne peut que la détourner. Car l'histoire n'appartient ni aux philosophes, ni aux politiques, ni même aux historiens. L'histoire n'appartient qu'à la vérité, et la vérité n'est pas négociable. Voilà, c'est un petit texte politique de l'ami de Nicolas, là, comment il s'appelle, Jaurès, Jean Jaurès. Je voudrais finir avec une petite note d'humour quand même. Quand le général de Gaulle est mort, André Malraux a écrit « Les chaînes qu'on abat ». Je pense que quand Nicolas Sarkozy mourra, Max Gallo écrira « Les glands qu'on ramasse ». Allez, salut à tous et merci pour les émissions.
Nicolas Sarkozy sur le plateau des Glières. Je voulais juste signaler aux auditeurs de là-bas, si j'y suis, que l'on peut écouter Raymond Braque, Philippe de Chartres, Maurice Kriegel, Val Raymond, Stéphane Hessel, qui était signataire de l'appel à la commémoration du 60e anniversaire du programme national de la résistance, que le journal Le Monde, faut-il le rappeler, avait à l'époque refusé de publier. C'était en mars 2004. Donc on peut écouter ces quatre grands résistants, dont l'un est mort, Maurice Kriegel, Val Raymond, cet été, sur www, des sous et des hommes avec un tiret entre chaque mot, .org, www, des sous et des hommes avec un tiret entre chaque mot, .org. Ce sont les émissions 101, 102, 103 et 104. Et là, si on veut comprendre les raisons de la résistance, pourquoi il s'était engagé, eh ben, ça sera mieux que de laisser dire Nicolas Sarkozy. Voilà, à bientôt.
Ça fait quand même impressionnant, le petit trou noir du revolver à hauteur de votre nez. Hein, ça, ouais. Ça marque, ça.
Et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, alors?
Parce que je suis contre la récupération qui est faite par M. Sarkozy. On n'a pas le droit de jouer avec les morts. Surtout quand on sait le prix qu'ils ont payé pour notre liberté à nous.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin. Défaite des armes, victoire des âmes.
Flight number 2.
Robert Lacroix, résistant, 80 ans, grimpe sur la table de pique-nique.
Chers amis, je ne sais pas si on m'entend, la visite sur le plateau des Glières du candidat à la présidence de la République, M. Sarkozy, deux jours avant le scrutin du second tour, a suscité de nombreuses et vives réactions. C'est pour exprimer notre colère, c'est bon, que nous sommes rassemblés ici aux Glières, symbole de la résistance aux Savoyards. En tant que président départemental de l'ANAC, ancien combattant de la résistance, j'ai adressé le 4 mai au Dauphiné libéré le communiqué dont je vous lis les passages principaux. C'est bien qu'une personnalité vienne honorer les combattants des Glières dont la devise était « Vivre ou mourir ». Mais il nous semble curieux que cette visite se fasse à la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle. Quand il était ministre, M. Sarkozy n'est jamais venu à la nécropole nationale de Morette, ni sur le plateau des Glières. C'est pourquoi nous pensons qu'il s'agit surtout de la part de ce candidat d'une opération électoraliste qui ne peut avoir l'agrément des anciens combattants de la résistance qui, au contraire, s'interrogent sur l'opportunité d'une telle visite. Ce communiqué n'est pas paru dans le journal. Bravo. Puis, c'est pas terminé. Puis des amis ont pris l'initiative de cette journée en nous demandant à Walter Bassan, Conzan Pesant et moi-même, tous trois anciens combattants de la Résistance, de nous y associer à titre personnel. C'est ce que nous avons fait volontiers, d'autant que l'appel proposé nous convenait parfaitement. Bien entendu, il ne s'agit pas aujourd'hui de mettre en cause l'élection du président de la République. Comme l'indique le texte, nous lui contestons le droit de récupérer un symbole historique au service de son ambition personnel.
Mmh. Marketing électoral, racolage électoral, petitesse électorale, faute contre la mémoire. Voilà ce qui a été le plus dit cette journée du 13, ce dimanche du 13 mai dernier, sur ce plateau des Glières, où 1500 personnes s'étaient réunies autour, et ben autour de ces trois anciens de la résistance qui ont combattu, qui se sont battus sur cet héroïque plateau, le plateau des Glières, 1500 mètres. Et la bataille, cette fameuse bataille qu'on va évoquer aujourd'hui, avait fait aux alentours de 149-150 morts. C'est discuté encore aujourd'hui parmi les maquisards. C'est un haut lieu à plusieurs titres. Ce sera le premier grand maquis à avoir livré bataille sur ce plateau qui était un important point de parachutage. Un maquis qui était commandé par un ancien officier, Tom Morel, celui-là même qui a été honoré par Nicolas Sarkozy, enfin la tombe de Tom Morel, et leur devise à tous était, ça vient d'être évoqué, vivre libre ou mourir. On peut trouver encore cette inscription sur ce site. Le maquis, ça se discute encore, avait été créé par la S, par l'armée secrète, en liaison avec le général de Gaulle qui était à Londres, et bien vite, ce maquis avait été rejoint par les maquisards du FTP, les francs-tireurs partisans de l'obédience communiste, et puis rejoint également par des républicains espagnols, 56, qui se sont joints à eux. Bien vite, je simplifie parce que tout ça va vous être raconté par ces anciens combattants, mais j'essaye de simplifier, de donner un peu un fil des événements. Bientôt, ils seront cernés par la Wehrmacht et par les forces de Vichy, gardes mobiles, policiers, miliciens, les fameux GMR, groupe mobile de réserve, il y sera question. Et pour Radio Paris, la radio donc des occupants, de la collaboration, c'est, je cite, un ramassis de lâches, terroristes et étrangers. Les forces, évidemment, sont très inégales. 470 maquisards cernés par 3000 Allemands et miliciens français. Tom Morel, le commandant, est tué le 10 mars 1944. Avant la fin mars, les deux tiers de ces maquisards sont faits prisonniers. D'autres sont torturés. 70 seront fusillés par la Wehrmacht et par des miliciens français. On a ensuite essayé de faire de cet épisode qui a évidemment été discuté. On l'a envoyé encore sur les interprétations qui sont faites sur le répondeur de la base où j'y suis. Tantôt le lieu de la résistance uniquement gaulliste, tantôt de la résistance communiste, tantôt de la résistance française, comme évidemment c'est ces enjeux de mémoire bien connus qui aujourd'hui s'éloignent et s'estompent, mais restent ancrés très profondément dans la mémoire nationale. Et ça a été une défaite, mais quelqu'un avait trouvé cette formule magnifique: défaite des armes, victoire des âmes. Tant aujourd'hui encore, on va l'entendre, cet épisode est resté très très sensible, au point qu'évidemment, dès qu'il s'agit d'en parler, de l'évoquer, les larmes et les émotions viennent, plus sans doute du patriotisme que du nationalisme, et la visite de Nicolas Sarkozy a d'autant plus froissé et les anciens combattants et les gens de la région et de bien au-delà de ce petit plateau des Glières. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis.
Les francs-gardes qui ont participé au nettoyage du plateau des Glières arrivent à Vichy où ils sont salués par leur chef, Monsieur Boudelan. Mais hélas, plusieurs de leurs camarades ne sont plus. Des soldats de l'ordre ont donné leur vie pour défendre le pays contre le crime et le banditisme.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. et j'ai repris mon arme. Personne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre.
Soyez-vous deux secondes là.
Alors devant nous, il y a des ânes, il y a des brebis. Ah ben,
ça, c'est mes animaux, ça. Oui, j'adore les animaux. J'ai réussi à faire un petit parc avec un camarade. Et là, j'ai donc deux ânes, une ponette qui est là-bas plus loin, des chèvres, des boucs. Puis des petits, j'ai deux petits cabris cette année qui sont magnifiques.
Alors c'est juste, c'est pas pour les manger ni pour le lait de brebis.
Surtout pas. Surtout pas. Comme je ne peux pas garder tous mes petits chevreaux qui naissent, j'essaye de les placer dans des familles qui ont envie d'avoir des animaux de compagnie. Non, j'aime pas les voir tuer. Hein.
Vous étiez ici quand la guerre a commencé ?
Oui, j'étais ici, mais dès le mai 43, je suis requis pour les chantiers. Or, les chantiers de jeunesse en 43, d'autant plus qu'on m'envoyait quelque part dans le sud-ouest, c'est-à-dire pas très loin du mur de l'Atlantique, j'ai pensé que au moment où les organisations de résistance commençaient à se constituer ici, qu'il valait mieux que je reste ici plutôt que de partir là-bas. Donc je suis devenu en quelque sorte réfractaire.
Et vous êtes allé où alors ?
Ben, je suis venu ici.
Dans votre maison, dans la ferme ?
Ben oui, parce que figurez-vous que ça correspondait au début des foins et tout ça. Alors, je savais que j'avais du travail.
Mais la police n'est pas venue vous chercher ?
Non, ils étaient un peu débordés. Non, mais le temps que ça revienne de là-bas, le temps passait. Mais du point de vue de la police, j'ai été tranquille pendant toute l'année.
Bonjour.
23.
Bonjour. Bonjour, monsieur.
Il y a où les choses se sont précisées. C'est à partir du service de travail obligatoire en février 43. Il y a 3 millions de jeunes qui vont être concernés. Il y en a 600 000 qui vont quand même être déportés en Allemagne comme travailleurs. Hein. Et puis les autres, ben, ils commencent à affluer dans des régions comme la nôtre. Ils arrivent de Marseille, ils arrivent d'un peu partout, de Lyon, des grandes villes, de Paris même, pour échapper justement au service de travail obligatoire.
C'est-à-dire qu'en forçant les gens à aller faire ce service-là, finalement, ça nourrit l'inverse, parce que les gens ne voulaient pas y aller, donc ils se sont retrouvés...
Ouais, parce que parallèlement à ça, la résistance, qui n'était pas majoritaire au début, mais qui était déjà dès 40, il y a eu des gens résistants. Alors, on n'appartient même pas à un mouvement homologué, mais on commence déjà à les aider, à les ravitailler, à les guider.
Mais alors, comment ça se passe ? Ils ne viennent pas sonner à votre porte, les jeunes qui fuient le STO ?
Ben ça, alors, par exemple, on a eu affaire à deux... qui avait réussi à échapper d'un autocar sur le col des Vires. Bon, ils se réfugient dans la forêt, puis après ils viennent dans une maison. Eh bien, le camarade me vient, me dit, j'ai deux maquisards qui sont là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je dis, on va s'en occuper. D'abord, il y en avait un qui avait été blessé, alors on va chercher le médecin, on va chercher le bon, c'est pas, qui le soigne. Et puis après, ben, on les ramène de l'autre côté de la vallée de l'Erve. Et puis après, les choses ont continué comme ça, c'est, en s'amplifiant.
Oui, un résistant bien tranquille, Constant Pézan, qui le reçoit, François Ruffin, voilà, dans sa petite maison, dans la région, près du plateau d'Aiglières, et qui raconte les choses très, très modestement, comme très souvent d'ailleurs. Hein. Il y a eu de ces actes de résistance, des récits, on l'entendait hier, pompeux, reconstruits, etc. Et puis il y en a qui, on se demande bien d'ailleurs pourquoi, qui auraient si à rester modestes, dans la juste mesure. Et il y a quelque chose qui nous fait, comment dire, croire que c'était ça, que c'est comme ça que ça s'est passé. Des gens jeunes qui bon non, c'est pas possible, voilà, c'est simplement inadmissible, alors on ne peut pas ne pas le faire. Et on a eu pas mal de témoignages, si vous vous souvenez, pas seulement d'ailleurs sur la résistance française, mais un peu à travers le monde, de ceux qui, par la suite, ont été transformés en héros, ont été parfois honorés, décorés, statufiés, mais qui, au départ, ont fait une chose parce qu'ils ne pouvaient pas la faire. J'ai l'impression que Constant Pézan fait partie de ces hommes-là.
Fin 43, la résistance tenait le terrain ici.
Ça veut dire que vous ne vous castigez pas quand vous dites que la résistance tenait le terrain?
Non. On essayait d'éviter de se balader avec des armes apparentes, c'est tout.
Et alors, en quoi consistent les actions de résistance, alors?
Ah ben, par exemple, on commence à recevoir des directives qui sont de constituer des stocks de médicaments et des stocks de denrées non périssables. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des médicaments? Eh bien, on va dans les pharmacies. C'est-à-dire qu'on arrive dans une pharmacie, on leur dit, voilà, on présente la résistance. On a besoin de médicaments, surtout alors désinfectants, pansements, morphine et tout ça. Et puis on prend dans une pharmacie, on emmène 5 tonnes de matériel, quoi.
Le pharmacien dit quoi?
Mais vous savez, il est difficile de s'opposer à un groupe armé d'une vingtaine d'hommes. C'est pas possible. C'est l'argument, c'est ça. Hein. Même quand ils ne sont pas d'accord, ils disent rien. Ça réussit à tous les coups, ça. Alors le gérant, il a dit, bon, écoutez, moi, de toute façon, je n'ai pas l'intention de m'opposer. Et il nous a aidés. Il nous a aidés dans notre tri, dans notre travail, quoi. Puis ça s'est très bien passé, quoi.
Alors, le jour, vous faites des hold-up?
Ah oui, on fait. Alors, voilà, des citoyens tout à fait normaux, imaginez-vous, tout citoyen normal et respectueux des lois, qui tout d'un coup se trouve engagé, l'arme à la main, faire des hold-up dans la journée ou le soir. On fait aussi les mairies, les sous-préfectures, on récupère des cartes de ravitaillement, les cartes d'alimentation, les tickets, qui va nous permettre d'alimenter les maquis.
Et tout ça à visage découvert?
On avait un espèce de principe, on aurait pensé déchoir si on s'était mis des cagoules. Ce qui fait que la police a eu sur nos identités, en recherchant, elle a trouvé des renseignements vraiment extrêmement importants.
Il y avait une excitation dans le fait d'avoir des armes et puis tout ça de...
Ah oui, oui, oh oui, ça c'est évident. Ça c'est évident. Alors au début, on avait des armes de récupération qui venaient de la guerre de 98. C'est avec ça qu'on a commencé. Des revolvers, des pistolets, des mousers, des bombes. Et puis après, on a commencé à récupérer des armes parachutées.
Français, quiconque parmi vous, fonctionnaire, militaire ou simple citoyen, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays.
Philippe Pétain.
Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipitez la patrie dans les pires malheurs.
Vichy s'inquiétait beaucoup, en particulier de ce qui se passait en Haute-Savoie. Il avait constitué des brigades spéciales antiterroristes.
Donc c'était vous le terroriste ?
Oui, nous on était les terroristes, les communistes, les... Oui, voilà.
Vous avez l'air là d'un papy bien paisible.
C'est-à-dire que, oui, je dirais par exemple, quand on a commencé à nous appeler terroristes, on n'a pas été révoltés. Pour ce qui me concerne, moi j'essaie de retrouver mes sentiments de l'époque, mais on n'était pas des terroristes. Parce qu'on ciblait, on a toujours ciblé nos adversaires. Mais par ailleurs, ça me faisait, disons, j'avais une certaine satisfaction. Ça leur fait vraiment peur. Or, notre but, c'était quand même de les épouvanter. Et le fait qu'on nous classait de terroristes, bon, je pensais que ça, c'était une preuve de leurs inquiétudes. Et on s'aperçoit que ces policiers font un travail important. Ils vont porte à porte dans les maisons. Ce qui fait que le 8 et le 13 janvier, on va capturer ces deux brigades, une à Bonneville, une à La Roche. 17 policiers au total, c'est quand même pas rien.
Vous êtes parti d'ici ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, on part avec notre mitraillette, notre Sten. Hein.
Mais ça, c'est pas à bicyclette quand même ?
Ah si, presque toujours. À bicyclette ou à pied. Hein. On capture 17 policiers.
Mais eux, ils avaient des armes aussi, il n'y a pas eu de conflit ? Comment ça s'est passé ?
Ils ont été pris par surprise. Hein. Et puis, il faut dire que pour ces opérations, on a mobilisé à peu près 50 partisans. Alors, par exemple, à La Roche, on a carrément quadrillé la ville. Hein. On sait où ils vont manger dans un hôtel de La Roche. Ben, ils sont capturés à ce moment-là, sauf un. C'est le commissaire principal.
Comment il a fait ?
Ben, il est arrivé, il a vu tous ses inspecteurs qui étaient contre le mur, les mains en l'air. Il a fait demi-tour, il est parti en courant. Il a été poursuivi par un camarade, mais qui l'a tiré dessus, mais il a échappé. Les autres, on récupère ces hommes-là, ces 17 policiers, qu'on emmène dans des camps qui sont des camps en montagne, là, un peu plus haut, au-dessus de Saint-Laurent. Là. On essaye de trouver une solution d'échange, parce qu'on a des camarades qui ont été arrêtés par Vichy. Alors, Vichy ne va pas bouger pendant plus de 3 semaines, presque un mois. C'est-à-dire qu'il n'en parle pas. On n'en parle pas dans les journaux.
Donc vous avez fait une prise d'otage, là, et il n'y a personne qui en parle ?
Personne. Absolument personne. Quand on y pense...
Et ils sont détenus où, alors ?
Ils sont détenus dans des camps en montagne.
Mais c'est quoi, des camps ?
C'est des chalets. Bon, et là, il y a un groupe de 20-30 maquisards, ou 30 ou 40 maquisards armés, qui les gardent. Là, tous ensemble, ils mangent tous ensemble... Il y a même, dans certains cas, une sympathie qui va se créer. Malheureusement, les choses vont mal tourner, puisque l'état de siège qui est décrété le 30 janvier, avec l'arrivée en masse de forces de police, et le 2 février, semble-t-il, l'ordre est donné de les exécuter.
D'après les renseignements recueillis, se trouveraient enterrés ici les corps de 7 inspecteurs et commissaires de police enlevés le 8 janvier dernier par un groupe de maquisards. Les corps apparaissent. Tous sont atteints de balles tirées dans la nuque, selon la méthode moscoutaire. Comment de tels crimes peuvent-ils se perpétrer sous le couvert du patriotisme ?
Vous étiez un chef à l'époque ou vous étiez parmi les chefs ?
Non, moi j'étais motivé, disons, politiquement. J'arrivais, il était parfois nécessaire que je prenne la direction d'un groupe. Je refusais tout commandement officiel.
Et donc vous étiez, avec vos camarades, amené à tuer ces personnes ?
Non, moi j'ai eu la chance. Mais si on me l'avait demandé, j'aurais peut-être été obligé de le faire. Et j'ai pas participé aux pelotons qui ont exécuté les policiers.
Et alors, quand ils découvrent les corps ?
Ah ben là, ils vont exploiter. Alors, ils vont exploiter au maximum. Là, ils font une campagne de presse internationale. Et il y avait un correspondant japonais. Il y avait des correspondants de tous les pays de l'Axe, évidemment, allemands, italiens et autres. Puis il y avait aussi les neutres comme des Suédois et comme des Helvétiques, des Suisses. Et là, ils font une campagne de presse absolument abominable. C'est l'horreur en Haute-Savoie, l'horreur. C'est comme Katyn, Vinnytsia. Enfin, on fait des rapprochements avec d'autres charniers qui ont été trouvés ailleurs dans d'autres pays. C'est l'horreur rouge.
C'est ainsi qu'à Annecy se déroulent les obsèques des policiers dont les corps affreusement meurtris furent découverts sur les pentes du plateau des Glières. Chaque jour s'allonge la liste des victimes de la sanglante histoire du terrorisme. Des Français égarés tuent lâchement d'autres Français.
Et là, ça fait fort, quoi. Bon, nous, on subit ça. De toute façon, à l'époque, on est à Glières. Hein. Alors, bon.
C'est où Glières, là, vous montrez, vous pointez du doigt, c'est par où?
Voilà, la face nord de Glières. Après, le massif s'étend vers le sud.
La face nord, elle est derrière le pin,
c'est
là.
Ça, oui, c'est oui. On peut la voir. Voilà.
André Malraux, colonel berger dans la Résistance, vous allez inaugurer dimanche un monument au plateau des Glières. Qu'est-ce que c'était que le plateau des Glières?
Il y a d'une part, qu'est-ce que ça signifiait? Et puis, il y a comment ça s'est-il passé? Ces gens qui ont combattu les troupes allemandes avec des moyens misérables ont une importance véritable, non pas parce qu'ils ont eu de tels résultats, ils n'ont eu de grands résultats qu'après le débarquement, parce qu'à ce moment-là, les maquis avaient reçu les bazookas et qu'ils ont pu combattre les chars. Avant, il n'y avait pas eu de tels résultats. Mais ils avaient été, comme ceux de Bir Hakeim, qui n'ont tout de même pas été les gens qui ont décidé de la campagne d'Afrique, ils avaient été les témoins. Bon, ce témoignage a été très important parce que la BBC diffusait tous les jours « Il y a trois pays qui résistent, la Grèce, la Yougoslavie, la Haute-Savoie. »
Après, le massif s'étend vers le sud.
La face nord, elle est derrière le pin,
c'est
là.
Ça, oui, c'est oui. On peut la voir. Voilà. Voilà, ça c'est toute la face nord de Glières. Le col de l'enclave ici. On occupait le col de l'enclave, on occupait les cols qui étaient sur la vallée de Thône. Mais nos camarades de Liberté Chérie occupaient les passages de part et d'autre de la Parnale, où il y avait finalement 560 maquisards.
Et quand est-ce que vous êtes retrouvé à Glières alors? Parce qu'auparavant vous étiez resté.
Ah ben parce que voilà, pendant on a été pourchassé effectivement par les forces de Vichy, qui étaient 10 fois supérieures à un autre. Et là, alors là, ils vont faire un ratissage très sérieux. La résistance va se faire dérouiller sérieusement. On a des trentaines d'arrestations. Il y a des camarades qui sont tués finalement sur place, d'autres qui sont arrêtés, qui sont interrogés de façon à la méthode effectivement qu'employaient les nazis à l'époque Vichy.
En Haute-Savoie, près de la Roche-sur-Foron, les GMR cernent un chalet repère de terroristes où se trouve entreposé un butin des plus variés. On met ensuite le feu au chalet qui avait été également transformé en prison par les maquisards.
Et d'autre part, on a des problèmes de ravitaillement et d'alimentation en munitions. Alors, l'idée de monter à Glières, elle arrive parce que Glières, ça représente une espèce de... Oh, c'est pas le paradis, ni l'Eldorado, mais à Glières, il y a déjà eu des parachutages. Tous les passages ici étaient gardés avec des armes automatiques et des postes en permanence.
Et finalement, il va quand même y avoir une attaque.
Ah ben, plusieurs attaques. Les miliciens vont essayer d'attaquer un peu tous les postes les uns après les autres. Et ils ont fait le tour. Mais rapidement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible. Ils ont des pertes, ils sont obligés de se replier. Et c'est à ce moment-là où ils demandent l'appui des Allemands. La Luftwaffe vient, commence à grenader le plateau. Et puis, tous les jours que le temps le permet, comme aujourd'hui,
Aujourd'hui, il fait beau, un ciel bleu, un ciel clair comme ça.
À 9h du matin, de 9h à 17h, par patrouille de 1 ou de 3, la Luftwaffe vient et elle mitraille tout ce qu'elle peut voir, quoi. Même un individu isolé il passe pas à travers, il essaye d'avoir. Alors ça va durer ça jusqu'au 26 finalement. Le dernier jour, c'est le dernier dimanche, c'est un jour magnifique. Il fait très beau. Et là, bon, il commence le matin jusqu'au soir. Ils finissent par brûler d'ailleurs, finalement par embraser tous les chalets, une centaine de chalets. Puis finalement, dans les attaques aériennes, un Allemand a eu un coup de chance, il a tiré au but sur le dépôt qui a sauté. Ça représente 90 tonnes de matériel, de quoi armer 3500 personnes. C'est pour ça que la fin de Glière pour nous a été considérée comme un désastre.
Un désastre parce que vous perdiez les armes ou parce que vous perdiez les hommes ?
On perdait les armes, on perdait les hommes. On était 250 sur 500 à peu près à s'en sortir. Alors pendant 15 jours, on va jouer à cache-cache avec les forces de Vichy et puis les Allemands.
Et puis au bout de 15 jours ?
Les Allemands sont obligés de partir pour aller ailleurs.
Ils ont d'autres sujets de préoccupation.
Les forces de Vichy, pareil. Et ça commence à dégager le terrain.
Voilà, récit de la bataille des Glières, de cet épisode héroïque, raconté très très simplement hein, par Constant Pézan. Et là, il est rejoint par un autre ancien de cette histoire, qui est Walter Bassin.
Bonjour Constant.
Ah ben vous arrivez pour monter. Ben on a discuté déjà un moment, mais on n'aura pas fini. Bonjour.
Bonjour.
On va peut-être y aller. Non, maintenant, non. Bon. Comment vous faites? Alors avec qui j'y vais, moi?
Oui, on va aller là-haut.
Alors pourquoi on monte là-haut aujourd'hui?
Il y a eu une intervention de Sarkozy la veille de la clôture du scrutin électoral, pensant qu'il y avait là une tentative de récupération politique. Or,
ils vous l'ont invité? Ils ont invité les résistants ?
Non, il n'a invité personne. C'est plutôt des gens de l'UMP.
Il est presque venu clandestinement, puisqu'on l'a appris, nous, le vendredi matin. Et il venait dans la matinée, hein, uniquement avec la presse. Bon, on n'empêche personne de monter aux Glières, hein, aller s'incliner sur la tombe des copains. Mais c'est le procédé qui est employé, qui fait qu'il vient s'appuyer sur l'idéal de la résistance. Mais moi, ce qui me chiffonne le plus, c'est qu'il a un programme politique qui tourne le dos au programme du Conseil national de la Résistance. Alors moi, je veux bien qu'on vienne s'incliner sur nos copains qui sont morts pour cet idéal, comprenez. Mais enfin, il n'y a rien qui montre que cet idéal, il va le respecter, enfin, il va essayer de le mettre en application. Au contraire, on a une politique qui combat, parce que je ne sais pas si vous savez quel a été le programme du Conseil national de la Résistance. Mais enfin, c'est quand même la Sécu, c'est quand même le travail pour tous, c'est quand même l'EDF, c'est quand même la nationalisation des banques, enfin, d'un tas d'autres choses qui a permis à la France de se redresser. Hein. Donc pourquoi, alors qu'actuellement, tout ça, c'est combattu. Et lui n'est pas le dernier pour le faire.
Bon, on cassera la croûte par là-haut, hein. Puis on peut bien rester un jour sans manger, tu ne mangeais pas tous les jours à Guillaume. Surtout sur la faim. On n'avait même plus rien à bouffer, oui. Ah ben c'est bien. C'est utile. Si on reste 8 jours, on en aura peut-être besoin.
Si jamais on a un coup de froid, ça change très vite.
Voilà, ben on va peut-être monter. Hein. Vous montez avec moi alors. Ben, ça va.
Voilà, avant de monter sur le plateau, on a décrit hier ce qui s'est passé sur ce plateau, le public venu nombreux, des jeunes souvent, de tous âges, autour de ces trois résistants, et de leur mémoire, et de leur histoire, et de leur combat, et de leur indignation, et de leur sens jamais éteint de la résistance, ils en font preuve, mais... Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est leur histoire. Enfin, comment ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, comment on peut avoir été des terroristes comme ça. Parce que ce sont des terroristes, ces gens-là, qui nous parlent aussi tranquilles et aussi honorés qu'ils soient aujourd'hui. Voilà le récit de Walter Bassin.
Alors voilà, moi j'habitais dans cette maison.
Ah bon ?
Oui. Et là, en face, il n'y avait pas ça. Il y avait une vieille usine désaffectée qui avait, à un moment donné, ils ont créé une...
Là, c'est un Intermarché, maintenant ?
Maintenant, c'est un Intermarché. Mais à l'époque, c'est, je dis, une vieille usine. Et ils avaient monté une société de transport. C'est-à-dire que des gars qui n'étaient pas spécialement résistants, il y avait des résistants dedans, hein, mais qui avaient ramassé des camions un peu partout, enfin qui avaient acheté ou je ne sais pas quoi. Et puis, certains d'entre eux ont été utilisés pour transporter ou des copains ou des armes, etc. Et son directeur, qui était un gars de droite, qui était paralysé par, à la suite d'une polio, a été arrêté, il a été à Buchenwald, et il en est revenu, il est mort maintenant. Hein. Mais il y avait un tas de copains résistants qui travaillaient là-dedans, chauffeurs ou autre. Voilà comment le quartier vivait ici.
Mais c'était quoi comme quartier alors ? C'était un quartier ouvrier ?
Oui, le quartier de la Prairie, c'était tous des travailleurs, bien sûr. La plupart d'entre eux étaient la moitié étaient de familles d'Italiens immigrés antifascistes. C'est tellement vrai que entre 43 et 45, aucun jeune n'est rentré ni dans la milice, ni dans une organisation pétiniste. On est tous rentrés dans un mouvement de résistance. À des dates différentes, suivant notre âge. Tu vois? Mais les copains qui avaient 20 ans, qui auraient dû partir au STO, ils ont pris le maquis. Alors certains sont morts aux Glières. Alors ma famille qui habitait là, ma mère, elle aurait pu être déportée 10 fois. Parce que de temps en temps, quand il y avait un gars qui passait par là, il fallait bien le nourrir. Bon, on le faisait manger ici. Et la famille d'à côté aussi, parce que la famille d'à côté, c'était Nonan Gérin. Hein. Alors lui, c'était un militant communiste. Chaque fois qu'il y avait une visite d'un ministre ou autre à Annecy, il faisait partie des communistes qu'on arrêtait pendant 8 jours, 3-4 jours avant et 3-4 jours après. Tu vois. Alors, et en 43, il a pris le maquis avec mon frère aîné, Dominique, en janvier-février 43. Voilà. Et ils sont restés au maquis, ils ont fait partie de la compagnie Liberté Chérie. Et ils sont montés aux Glières. Et puis ensuite, ils ont libéré Annecy. Voilà. Et là, il y a un tas d'autres copains de la région.
Et d'où ça vous est venu, vous, d'entrer dans la résistance comme ça ?
C'est un gène, oui. C'est pas les gènes de président de la République, mais c'est celui de prendre des coups. Mais non, ce qu'il y a, c'est que je suis quand même... Ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis d'une famille de réfugiés politiques italiens. Hein. Mes parents, je dis bien mes parents, hein, pas spécialement mon père, mais y compris ma mère, se sont battus contre les chemises noires de Mussolini dans les années 20. Hein, à tel point qu'il aurait resté qu'une seule solution, en particulier à mon père, c'était de se sauver. Pour mon père, Pétain, c'était le fascisme, quoi. Hein. Alors, c'était donc le général de Gaulle qui avait appelé à ne pas baisser les bras, à continuer la lutte. Bon, et petit à petit, alors j'ai mon frère aîné, lui, en janvier 43. Il est parti avec Nonan Gérin, il a rejoint le maquis, et puis un autre frère, le deuxième, et moi, on est rentrés. Parce qu'ici, dans le quartier, il y avait quand même un cercle de jeunesse communiste. Alors, on est rentrés dans ce cercle de jeunesse communiste qui participait à la résistance dans le cadre de la compagnie FTP 93. Voilà. Si tu veux, on avait à prendre un gars, tu vois, par exemple, un gars comme Gilles, qui était recherché à Lyon, si tu veux, et qui se sauvait. Hein, et dans le cadre de la filière, il rejoignait un groupe de résistants en passant par Annecy. Et nous, on était chargés éventuellement de le prendre en charge et de le faire traverser Annecy et de l'amener, si tu veux, aux environs d'Annecy, où d'autres le reprenaient en charge, toi, mais en lui évitant de tomber entre les pattes. Parce qu'alors, à Annecy, tu ne faisais pas 50 mètres sans tomber sur un flic, un milicien, un gendarme. Donc, si tu veux, là, on a l'avenue de Genève, hein. C'est la rue, une des rues principales d'Annecy à l'époque, qui nous emmenait hors d'Annecy, à La Roche. Hein. Mais rien que sur l'avenue de Genève, tu avais 3 barrages. Hein. Un barrage de miliciens, un barrage de flics, gendarmes ou autres, puis un barrage d'Allemands. Alors il fallait, nous on servait de guide en leur faisant passer par les petites rues, tu vois, pour les sortir d'Annecy. Quoi. Voilà. Puis on les confiait à un autre qui reprenait le relais, etc. Voilà ce qui a été. C'était pareil pour les armes, hein. On avait la même chose. Hein.
Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne, et pour mieux servir le pays.
ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le poids, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Bravant Laval, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, jeunesse.
Il y a une plaque
Oui, il y en a plusieurs d'ailleurs, tu vois, mais je suis en train de lire celle qui est en bronze, là. Ah ben, dis donc, hein.
Vous voulez que je vous la lise ?
Oui.
Ici, en 1944, des patriotes ont été torturés et assassinés par des miliciens fascistes du gouvernement de Vichy. Plaque à poser le 18 août 1945, voilà. Oui. Anniversaire de la libération d'Annecy.
Ah. Et puis alors, à la mémoire de John d'aujourd'hui et de Paul Bullman, assassinés par les traîtres à la patrie en ce lieu de torture, juin 44. Alors moi, j'ai été arrêté le 23 mars, enfin, avec tout le groupe, hein, on a été arrêté le 23 mars 44, on y est resté jusqu'à fin avril. Hein. Le gars qui nous a vendus connaissait nos noms et nos adresses. Alors il est allé nous vendre à la milice, et la milice, bon, elle n'a eu qu'à relever les noms, les adresses, et elle nous a ramassés tous les uns après les autres. Mais elle nous accueillit comme des fleurs, enfin, c'est comme ça. Et on a tous atterri dans ce bâtiment qui était le siège de cette milice. Et John d'aujourd'hui, pendant qu'on était ici, dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, il est mort dans des tortures affreuses, tellement ces miliciens lui avaient tapé dessus, ils lui avaient cassé la colonne vertébrale. Alors tu vois que les miliciens n'avaient rien à envier aux SS, hein, quand ils avaient quelqu'un entre les mains. Disons. Et puis Paul Bullman, lui, il a été fusillé après, pareil. J'étais dans cette fenêtre-là.
En haut à gauche.
Voilà. Et c'était un bureau dans lequel on était 10 jeunes, tu vois, sur de la paille. Voilà. Et puis dans le bureau d'avant, c'était la cellule dans laquelle d'aujourd'hui est mort. Et puis après, il y avait les 15 autres copains, l'autre bureau, il y avait les copains qui avaient plus de 18 ans.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous à l'intérieur ?
Bon, on a pris des coups, des claques, des coups de nerf de bœuf, puis ça s'est arrêté assez rapidement. Puis qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? On avait distribué des tracts, c'est vrai, on avait distribué des journaux, c'est vrai, on avait pris en charge des gens qu'on emmenait à un endroit que l'on nous disait, tu vois. Mais c'est tout, une fois que tu avais dit ça, tu ne pouvais rien dire d'autre. Bon, on nous a fait crever de faim pratiquement, et on est resté à la prison Saint-Paul à Lyon jusqu'au 29 juin. Le 29 juin, on nous a livrés aux Allemands, et eux nous ont transférés en chemin de fer en Allemagne, quoi. Sans nous dire où on allait, bien sûr. Hein, ça, et puis le 2 juillet, on est arrivé dans un camp, et c'était Dachau. Voilà. Mais on nous disait d'office, hein, quand on arrivait au camp, hein, on nous disait, bon... Voilà, vous êtes rentré par là, vous sortirez par là. Alors c'était le portail d'entrée. Et puis, par là, c'était une cheminée qui fumait. Tu apprends rapidement que cette cheminée, c'est celle du four crématoire. Alors on savait que, quel que soit ton comportement, de toute façon, ta destinée, c'était la mort. Point. C'est tout. Alors, j'ai la chance d'en être sorti, quoi. Parce que mes copains, sur les 25, il y en a 15 qui n'en sont pas sortis. Alors depuis, bon, ben, j'ai un engagement... ne serait-ce que pour mes copains, hein. Mes 15 copains qui avaient, certains d'entre eux avaient 15 ans, quoi, 16 ans, qui demandaient qu'à vivre.
Donc c'est une coïncidence, si jamais en mars 44, vous êtes arrêté, votre non, groupe est arrêté, et en même temps, l'Aiglière, il y a une répression à la fois des Allemands et de la milice.
Non, c'est pas une coïncidence, c'est dans le cadre de l'état de siège où ils avaient mis le département de la Haute-Savoie. Donc il fallait arrêter tout ce qui était résistant, quoi, tout ce qui était opposé à Vichy. On devait monter au maquis. Hein. Normalement, notre groupe devait monter au Glière. Bon, en attendant, il fallait participer à la résistance en ville. C'est ce qu'on faisait. Hein. On n'a pas eu le temps de monter au maquis puisqu'on a été arrêté avant. On était vendu, on était arrêté avant. Hein.
Mémoire résistante. Merci à Walter Bassan, à Constant Pessan, Gilles Perret et ses amis au Savoyard. Merci, c'est un reportage de François Ruffin. À la technique aujourd'hui, Julien Dumont, Éric Morin, c'est Yann Chouquet et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission, ainsi que Charlotte Perry. Et Christophe Imbert attend vos messages
au répondeur de la base CIGIS ou au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.